Merci. Merci pour l'accueil et merci pour l'introduction du culte ce matin. Je trouve c'est très important, bien que souvent on concentre sur le point du message, on ne reconnaît pas souvent ou suffisamment le fait que même l'air avec lequel vous êtes arrivé à l'église est très important, ou au lieu du culte est très important. Déjà votre préparation la veille, même la semaine avant, est très important. Ce n'est pas à nous de venir payer notre argent, passer un flic et puis tout est fait, tout est bien fait, j'ai bien organisé les choses, j'ai suivi l'obéissance du Seigneur, j'ai fait mon devoir. Là, c'est fini, je rentre chez moi tranquille, je vais vivre le reste de la semaine comme je voulais. Ça fait un peu plus loin à part de ce qu'il disait là, c'est que la parole de Dieu est là pour nous enseigner, là pour nous apprendre, vivre dans le Seigneur. Et la première façon et la meilleure façon de le faire, c'est d'être à l'écoute du Seigneur à tout moment, et pas simplement au moment du culte. Parce que si vous venez simplement pour écouter la musique, c'est déjà bien, déjà des bonnes choses. Même pour écouter le conseil de nos femmes, de nos collègues, nos frères et nos sœurs en Christ, c'est déjà bien. Mais si on reste simplement sur la parole des autres, et pas sur la parole qui doit vivre en nous, nous sommes des grands perdants. Nous sommes des personnes qui n'arrivent pas vraiment de comprendre que la Bible est vraie et pas simplement des histoires. Quand il a commencé ce matin, je me suis dit, mais ça me fait penser toujours aux paroles de notre médecin, des pédiatres de nos enfants, quand nous avons commencé à Clermont-Ferrand. Il nous disait toujours, mais vous savez, des histoires bibliques, ce sont des histoires pour les enfants. C'est ça qu'il nous disait. Hein? Et nous avons essayé, très peu de français, qu'on avait possibilité pour manipuler les paroles et tout ça. On a dit, mais oui, mais on pense qu'il y a plus que ça, c'est le message de Jésus qui est très important. Mais bon, ça c'est pas déjà le message, mais déjà fait, bon. Merci. Je voudrais continuer ce moment de partage, comme Samuel a dit. Je voudrais brièvement introduire nos espérances et notre désir de commencer une œuvre d'évangélisation, de travail dans, je dis plutôt même dans le Massif central et pas uniquement ici tout près, mais notre vision c'est même plus loin que ça, et ça fait part de la vision de même de notre mission. Donc on aura plus de temps peut-être de mieux expliquer plus tard, ou de mieux même peut-être d'ouvrir les boîtes ou les portes pour on peut discuter, prier, mieux savoir prier ensemble les uns pour les autres, pour ce que peut-être on peut trouver faire dans l'avenir. Mais bon, je voudrais continuer le pensée que nous avons déjà commencé ce matin en lisant le psaume 1. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si je peux me permettre de nous arrêter juste à ce premier verset, réfléchissez-vous bien, où est-ce que vous passez la plupart de votre temps? Quel est le conseil, quelle est l'origine du conseil que vous entendez, que vous écoutez, que vous recevez? La radio, la télévision, Internet, des livres, des amis, les journalistes. Qui sont vos conseils? Est-ce peut-être qu'ils sont plus, vous êtes plus à l'écoute de toutes ces bruits qui nous entourent que la parole du Seigneur et la présence du Seigneur dans notre vie? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'il revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. J'ai dit tout ce qu'il fait dans le Seigneur réussit, pas forcément tout ce qu'on fait dans le monde, du point de vue du monde. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Pour notre projet de l'avenir, je sais qu'on a déjà mentionné ça de temps en temps. Moi, j'étais là le mois de novembre l'année dernière. Et nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup cherché la volonté du Seigneur pour nous et pour vous et pour tout le monde. Qui concerne cette œuvre. Et nous avons prié même pour ceux qu'on ne connaît pas. Parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de monde qui sont parpillés partout, qui ne sont pas à l'écoute du Seigneur. Ils sont plutôt tournés pour écouter le conseil du monde. Le monde, parfois, qui nous soulève des questions, comme les journalistes parmi les gens qui ont reçu cet tremblement de terre au mois de janvier. Les journalistes qui venaient, mais vous êtes fâchés avec Dieu? Première question, parfois. Mais je me dis, écoutez ce qu'il dit. D'un côté, les journalistes et le monde disent, oh, on ne croit pas en Dieu. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Mais premier coup, il y a quelque chose de catastrophique en dehors du pouvoir de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous vous êtes fâché avec Dieu? Mais alors je dis, mais alors, est-ce que Dieu existe ou non? Quelle est la vérité? Qu'est-ce que vous nous dites la plupart du temps? Vous suggérez des questions, des doutes que Dieu n'existe pas, mais maintenant vous voulez fâcher avec quelqu'un qui n'existe pas? Vous osez demander le monde qu'il se fâche avec Dieu, que dans, là vous ne croyez pas qu'il existe, alors il y a quelque chose qui n'allait pas là. C'est le geste du diable. Il veut toujours contourner les choses contre Dieu. Quand on sait bien que parfois, nous recevons souvent les résultats et les conséquences de nos décisions. Les effets du monde, les décisions des autres. Nous croyons qu'il y a beaucoup de monde qui vit dans le massif central, qui ne connaît pas la vérité, qui n'ont jamais rencontré des personnes qui, justement, qui croient que la Bible est vraie et que ce n'est pas que des histoires, mais c'est le message de la vérité de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour le péché du monde, qui sont interpellés par ce message pour dire oui ou non à Dieu. Ça, c'est l'appel que Dieu nous donne. Ça, c'est l'appel que j'accepte. Donc, nous avons prié. Je vous donne un coup d'œil simplement sur notre mission. Nous avons, de notre mission, nous avons dans le monde entier 5 500 missionnaires qui travaillent dans les centaines de pays, par pays dans le monde. Nous avons une dizaine de couples qui travaillent en France, ou même plus, qui font le travail parfois dans les endroits qu'on n'annonce pas trop haut, parce que parfois ça met en danger les personnes qui risquent de se convertissent à... Ça met au péril même leur vie. Donc, nous avons des missionnaires qui travaillent en France sans être connus vraiment comme des missionnaires. Notre mission nous a permis de réfléchir, de chercher un endroit de la France où on peut installer, un endroit où, selon les études de plusieurs ressources évangéliques et tout ça, où sont les endroits, on peut dire, les moins évidents, la présence, la manifestation de la foi en Jésus-Christ. Et l'Auvergne, c'est une des régions. Donc, pour nous, nous avons prié, nous avons cherché, nous avons demandé au Seigneur. Je vous dis, il y a longtemps, Sarah et moi, nous avons prié, nous avons cherché la volonté du Seigneur. Nous sommes, vous vous souvenez autrefois, pour ceux qui sont peut-être un peu plus expérimentés, plus âgés dans la vie que d'autres, avant le pont de Millau, vous vous souvenez, on descend dans la vallée et on remonte, et de l'autre côté, même sur les deux côtés, mais de l'autre côté du vallée de Millau, il y a un point de vue, on peut s'arrêter à côté de la route et on peut regarder dans la vallée. Combien de fois nous avons traversé cet endroit pour prier pour cette région? Et nous avons demandé au Seigneur, mais Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire ici? Nous sommes traversés parfois de Lyon, Clermont-Ferrand à Bordeaux, et nous avons passé la route, le chemin qui traverse Brive et Tulle, d'autres endroits de la France, du Massif central, où nous avons prié. Nous avons demandé au Seigneur, « Seigneur, est-ce qu'il y a une œuvre parmi ces gens-là qui ne te connaît pas? » Quand cette possibilité pour nous de déménager, de nous atterrir dans l'Auvergne, dans le Massif central, pour essayer de démarrer, pas simplement avec une vision d'un seul œuvre, mais peut-être de plusieurs œuvres. Nous avons cherché, nous avons demandé au Seigneur, mais Seigneur, aide-nous de trouver un endroit où nous pouvons être disponibles pour aller à droite, à gauche, pour trouver des personnes, peut-être qui s'intéressent de recevoir l'Évangile, mais qui s'intéressent pas simplement de le recevoir, mais de redonner aux autres. Vous savez, souvent nous sommes comme l'exemple biblique de mère morte qui reçoit toute la bénédiction des montagnes du nord d'Israël et la vallée du Jourdain. Et parfois, nous pouvons arriver nous-mêmes de devenir comme la mère morte au bout du vallée du Jourdain qui reçoit toutes ces eaux fraîches mais qui donne rien, même pas la vie elle-même, est toute salée. Donc nous ne voulons pas que nos vies soient simplement en corbeille pour recevoir tous du Seigneur et de ne rien donner aux autres, de ne rien donner aux autres. Notre vision a commencé de chercher, nous avons commencé de prier, nous avons continué, nous avons même posé des questions sur Rodez et Aurillac. Et nous avons cherché un endroit où il n'y a pas vraiment un témoignage vivant de la part du Seigneur. Pas mieux que les autres peut-être, mais simplement où il veut qu'on place nous-mêmes. Ce n'est pas une œuvre de compétition. Je ne suis pas là, nous ne sommes pas là. Si on commence avec une idée de où on va faire mieux qu'un autre, ça c'est déjà une erreur. L'œuvre du Seigneur, c'est le sien, pas le nôtre. Il faut qu'on trouve notre place. Et parfois, c'est à nous de trouver notre place et d'aider les autres de trouver leur place aussi dans le Seigneur, s'il veut qu'on soit en contact avec eux. Finalement, en parlant avec Samuel, et en parlant avec le conseil de l'Église, nous avons dit, mais moi, je n'existerai pas pour l'éternité. Pourquoi pas essayer de nous mettre en contact les uns avec les autres pour qu'on puisse encourager l'un et l'autre de faire un travail dans un endroit qui nous convient tous. Et nous avons prié, nous avons demandé à notre mission qui nous a donné l'accord de chercher un endroit plus près de Clermont-Ferrand. Et nous avons sélectionné des vivres à Issoire pour la première étape pour nous. Mais cette décision de vivre à Issoire, je vous dis tout à fait au début que ce n'est pas une limite pour nous. Mais c'est un point de repart, de départ, de chercher les endroits où se trouvent des personnes qui s'intéressent de faire quelque chose au nom du Seigneur Jésus. Bon, ça semble peut-être très égoïste, mais je dois vous dire, ça fait lourd comme responsabilité. Ça fait énorme. On a lu même ce matin le verset qui nous disait « On ne cache pas la lumière, mais on met sur une colline. » Pour que nos bonnes œuvres soient un témoignage aux gloires du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui me frappe vraiment aujourd'hui, c'est de vous dire, avant que mes bonnes œuvres pour faire quoi que ce soit pour les autres, il faut que ces œuvres commencent par la puissance et la vérité de Jésus-Christ, et pas à travers moi. Donc, je vous demande de prier pour nous. Vous savez, il y a, selon les études, on peut imaginez peut-être qu'il y a plus ou moins une vérité dedans, mais vous savez qu'il y a 1,5 billion de gens dans ce monde aujourd'hui qui n'ont jamais entendu le message de Jésus une fois de leur vie, de notre capacité de comprendre. Imaginez-vous 1,5 billion de gens qui habitent dans ce monde. C'est inimaginable. Ce nombre de personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Bon, si nous, on commence individuellement d'imaginer que nous, on peut le faire, on n'arrivera pas. Parce que nos efforts sont petits, nos capacités ne sont pas très, peut-être futées. Il faut qu'on reste dans la main du Seigneur à chaque pas des choses qu'on fait. Donc il y a ce manquement spirituel à nos impressions, une ténèbre spirituelle qui existe. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin de réconciliation avec Jésus. Et nous voulons faire part de ses œuvres dans la région. Donc nous allons nous installer à Issoir comme un premier pas. Deuxième étape, si vous voulez, c'est de commencer à faire la connaissance du région. Visiter droite à gauche, chercher des personnes de bonne volonté, mais surtout de chercher les personnes que Dieu appelle pour travailler avec nous et nous avec eux. Je ne prétends pas du fait que nous arrivons ici, que nous allons facilement trouver beaucoup de monde rapidement. Pour ceux qui connaissent, je crois que Gérald Touquet, s'il était là, il sera le seul qui connaît vraiment le début d'un travail d'une église, l'église de Clermont-Ferrand que nous avons commencé avec. Ça prenait au début des mois pour faire la connaissance des gens. On veut pas travailler avec n'importe qui. Nous ne voulons pas chercher n'importe qui veut venir. Oui, on veut faire quelque chose et puis d'un coup ils sont mécontents, ils sont pas contents, ils partent. On ne fait pas un travail de Dieu comme ça. On a besoin des gens qui sont prêts d'engager avec le Seigneur et pas premier pas avec nous, mais avec le Seigneur, qui se sent appelé par le Seigneur. Parce que je vous dis, je sais qu'il y avait des moments, Gérald Touquet peut très bien vous dire, peut-être d'autres personnes, il y a des moments dans le commencement des églises, et même, j'imagine pour vous, constamment dans l'Église, il y a parfois des questions qui se lèvent, mais alors comment on va faire? Et si on cherche vraiment, simplement pour être content les uns avec les autres, simplement, ça va être difficile. Parce que l'œuvre du Seigneur n'est pas naturelle pour nous. L'œuvre du Seigneur est une œuvre spirituelle qui doit changer nos idées, nos façons de voir, même nos langues, et notre capacité et notre facilité de s'exprimer même, parce que nous sommes en train de parler aux gens qui ne veulent pas entendre, parce qu'ils sont engagés dans une voie qui les emmène contre la volonté du Seigneur, pour la plupart du temps. La Bible nous dit, ceux qui sont engagés dans le monde sont engagés contre Dieu. Et ceux qui sont engagés avec Dieu, ils sont engagés contre le monde, contre le sens du monde. Il faut être prêt de comprendre que l'œuvre du Seigneur n'est pas facile. Et ça vient de lui, ça ne vient pas de nous. Donc, la deuxième étape, c'est de commencer à chercher, de prier, demander au Seigneur, « Seigneur, qui sont des personnes qui sont à la recherche de faire quelque chose, qui veut faire quelque chose au nom du Seigneur Jésus ?» Et de laisser travailler l'Esprit dans leur cœur, dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui doivent venir au Seigneur. Donc, notre emplacement à Issoire comme d'habitation, c'est un commencement pour nous. Espérons de chercher, de trouver le lieu, les endroits, les personnes que le Seigneur veut qu'on travaille avec. Ça, c'est notre désir, ça, c'est notre commencement. J'ai préparé un autre message, mais je ne sais pas si j'ai vraiment le temps d'entamer le message. Peut-être on peut au moins lire le verset que j'ai pensé de le faire et laisse travailler le Seigneur dans votre cœur. Vous savez, deuxième page. Bon. Luc chapitre 24. Normalement, on termine à quelle heure? Le message. Pas les autres choses après. 11h30? Oui, très bien. Oh, 11h30. On va voir. Luc 24. Je sais que le temps du Seigneur continue toujours, mais si vous voulez simplement trouver que le Seigneur est là que pendant l'heure du culte, alors comme je disais, vous êtes déjà trompé parce que là, le Seigneur ne reste pas que le moment du culte. Ok, Luc chapitre 24, si je peux arriver de lire ces versets, commencez verset 13. Luc 24, verset 13. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi les propos et leurs réflexions, Jésus lui-même approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtaient, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournaient à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ce jour-ci ?»« Quoi donc ?» leur demande-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, des prêtres et des dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Et sont venus raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes ont décrit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur a dit, « Ah, âme sans intelligence, vous êtes bien lente à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourons tous ceux des prophètes. Jésus leur expliquait ce qui était rapporté à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivaient près du village qui se rendait. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retenirent avec une vraie insistance en disant, « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il rentra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et il le donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans nos cœurs pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait l'Écriture? Ils se livraient sur l'heure et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvèrent les onze réunis avec le compagnon. Tu les accueilles par des paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est montré à Simon. Il se montrait à Simon. Alors les deux disciples racontaient à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Parfois, nous avons des moments difficiles dans nos vies. Parfois, ces moments sont vite passés et pas très longs durés. Parfois, ils sont plus longs. Et parfois, nous sommes face aux circonstances où nous sommes obligés de nous placer devant Dieu en disant « Dieu, Jésus ». Nous ne savons pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, comme pour les disciples, je vous donne un conseil. D'abord, ils ont eu le bon conseil de la parole de Dieu. Dieu les a retournés dans la Bible, dans les histoires anciennes, pour leur rappeler tout ce qu'il était promis de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus se révélait lui-même à eux. Frères et sœurs, je vous dis une chose que je trouve très importante. Comme la Bible nous cite que chacun a leur don, chacun a leur capacité de servir et de suivre le Seigneur selon son appel sur eux. Moi, je trouve que ça, c'est primordial dans l'Église et dans la vie de l'évangélisation. Chaque personne doit trouver leur place dans le Seigneur et pas sous la pression ou à cause des pressions des autres. Et c'est ça que je veux pour vous. C'est ça que je veux pour nous. C'est ça que je crois qui est très important dans la volonté du Seigneur, qui se manifeste, qui se révèle à nous tous. Et au fur et à mesure, nous arrivons de comprendre des choses à faire, qu'on puisse faire ensemble, que le Seigneur nous fasse signe, qu'il nous donne des accords, qu'il nous donne des conclusions ensemble, où on peut marcher ou peut-être où on ne peut pas marcher, de faire les choses ensemble. si j'ai bien compris, qu'il y a certains qui posent les questions, mais qu'est-ce qu'il y a dedans pour l'Église? Qu'est-ce que l'Église est obligée de faire? Moi, je vous dis simplement, je vous demande simplement dans la prière que vous nous accueillez, vous priez pour nous, vous cherchez la volonté du Seigneur pour vous, et au fur et à mesure que nous marchons ensemble, nous trouverons le chemin où on peut être d'accord de faire les choses ensemble au fur et à mesure que le Seigneur nous dirige ensemble. Ça, c'est ma prière, franchement. Je veux que ça soit une œuvre pour vous et pas simplement à cause du fait que moi, je suis là. Je vous dis ça tout honnêtement. Je ne vous demande rien dans un sens. Je ne peux pas vous demander. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est au Seigneur le premier pas. Je vous demande, je vous encourage, en tant que frères et sœurs, de nous accueillir dans la région. Priez pour nous. Demandez au Seigneur de nous aider de comprendre tous et de trouver ces gens qui se baladent, qui ne sont pas engagés, de les appeler, que le Seigneur les appelle de s'engager les uns avec les autres, comme l'apôtre Paul en hébreu leur a dit, ne vous manquez pas le rassemblement de vous les uns avec les autres pour vous aider et encourager les uns les autres. Ça, c'est ma prière. Ça, c'est le début de notre travail. Je veux que ça soit l'œuvre du Seigneur, parce que si je pars demain, que je peux très bien faire, tomber malade, avoir un accident d'automobile, je ne veux pas que l'œuvre s'arrête avec moi. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que ça soit un appel du Seigneur qui nous dirige tous de marcher l'un avec l'autre. Et je vous dis, quand on commence comme ça, ça ne nous donne pas la raison d'imaginer que nous sommes mieux que les autres. Mais nous sommes privilégiés, oui, mais pas mieux. Mais nous sommes tous sauvés, pardonnés et offrir la grâce par la mort et l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Prions, Seigneur.